Et tout de suite, c'est le moment de retrouver notre émission pour les droits humains, pour la dignité qui est en place déjà depuis pas mal d'années. Et bonjour, bonjour, Régis Coulanges, ça y est, alors si j'oublie ton nom dès le début de l'année 2025, ça va pas marcher.
Ça bonjour. Va pas le faire.
Régis, donc.
Bonjour, bonjour à tous et bonne année à tous. Espérons une année 2025 meilleure que 2024 pour les droits humains, voilà. Donc ben justement, je vais vous faire le bilan de la campagne mondiale « Changer leur histoire ». Donc vous savez qu'on choisit chaque année une dizaine de cas de personnes dont les droits sont bafoués. Et puis on essaye d'obtenir un maximum de signatures de pétitions. Alors sur Digne, on a obtenu en tout 4104 signatures par le groupe et puis par les deux antennes jeunes. L'antenne jeune nouvelle qui a un an, du lycée Alexandra Davinel, et puis l'antenne jeune plus ancienne du Pierre-Gilles de Gênes. D'ailleurs, c'est cette antenne jeune qui a battu le record du nombre de signatures de pétitions, on les félicite. Voilà. Et déjà, on a une victoire. Alors c'est important, hein, y a tellement de mauvaises nouvelles que donner les bonnes nouvelles, ça fait du bien. Donc voilà, on a obtenu déjà, pour un cas, sa libération. Il s'agit de Net Nahara, qui est une chanteuse qui était emprisonnée pour avoir critiqué les autorités sur les réseaux sociaux. Donc on avait une pétition pour elle qui a été très bien signée. En effet, elle avait critiqué le président de l'Angola sur TikTok et elle avait été condamnée au titre de outrage à l'État, à ses symboles et à ses institutions à 6 mois, puis prolongée de 2 ans. Voilà, et il y a eu tellement de mobilisation en sa faveur que dès le 1er janvier de cette année, elle vient d'être libérée. Voilà, donc c'est une grande victoire et nous remercions tous les gens qui ont participé à la signature de cette pétition et qui ont contribué grâce à leur signature à la libération de cette personne injustement emprisonnée. Voilà. Il reste les 8 autres cas. Certains cas peuvent encore être signés si vous allez sur le site amnesty.fr. Et puis, bien sûr, nous n'abandonnons pas ces personnes une fois la campagne passée. Nous continuons à les suivre. Par exemple, le groupe de Digne continue à suivre le cas de Luis Manuel Otero Alcantara, qui était un des cas de la campagne de l'année dernière. Et voilà, c'est pour vous dire qu'Amnesty, on continue à s'intéresser aux personnes et à essayer de les faire libérer. Voilà, alors si vous voulez nous rejoindre, nous avons besoin d'être nombreux pour obtenir un maximum de victoires et arriver, comme cela vient d'être fait, à changer leur histoire. Voilà, changer, nous avons changé l'histoire de Nahara, cette jeune Angolaise. On va écouter un petit clip qui s'appelle « Votre signature change l'histoire » et qui vous incite à nous rejoindre si vous avez les mêmes sentiments que nous.
Recherche personne de tous âges, de tous horizons, de toute religion ou sans religion. Recherche personne de toutes les régions, au-delà des frontières, qu'importe la couleur, l'accent. Recherche les idéalistes, les pragmatiques, des êtres humains empreints d'humanité. Pour crier l'espoir et changer l'histoire. Pour défendre les personnes qui se battent pour nos droits. Pour soutenir celles qui payent le simple fait d'être qui elles sont. Pour amplifier les voix que l'on veut faire taire. Pour obtenir justice et libérer les Yasaman, les Bernardo, les Idil de ce monde. Pour changer leur histoire. Signé. On se bat ensemble, on gagne ensemble.
Voilà, signez, rejoignez-nous. Maintenant, je vais vous parler de Narges Mohammadi, la dernière à recevoir le prix Nobel de la paix. C'est une Iranienne Et depuis 2015, Amnesty International a lancé pas moins de 13 actions urgentes en faveur de cette défenseuse des droits humains. Narghez Mohammadi, plusieurs groupes locaux d'Amnesty portent l'action suivie en sa faveur et ne relâchent pas leur effort pour la soutenir. Jusqu'au 4 décembre 2024, les autorités iraniennes soumettaient la journaliste qui est détenue arbitrairement à la torture en retardant fortement l'accès à des soins de santé adéquats. Par le biais de son avocat, nous avons appris qu'elle avait été temporairement libérée de prison suite à une opération chirurgicale pour retirer une tumeur de sa jambe. Nous réitérons nos appels en faveur de la libération inconditionnelle de Narghez, prisonnière d'opinion, détenue uniquement pour avoir milité pacifiquement en faveur des droits humains. Alors, c'est une combattante pour la liberté, les droits des femmes, contre la torture et la peine de mort en Iran. Inlassablement, elle se bat de façon remarquable, quitte à ne plus pouvoir voir sa famille. Elle a deux enfants, des jumeaux, qui ont reçu pour elle le prix Nobel de la paix. Et c'était la deuxième fois qu'il y avait la chaise vide lors de la remise de ce prix Nobel. Voilà, donc une fois libérée, à peine, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais à peine sortie de l'ambulance qui l'a ramenée chez elle, elle avait le poing levé en criant « Femme, vie, liberté ». Voilà, elle ne se résout pas, elle ne se soumet pas. Elle est toujours une combattante, même en prison, elle continue le combat. Elle a donné des interviews. Alors, il faut savoir que chaque fois qu'elle donne une interview ou qu'elle témoigne dans un journal, elle risque d'avoir sa peine prolongée. Voilà. Alors, on a parlé ce matin sur France Inter, j'écoutais le cas d'un touriste qui avait été arrêté et qui est en prison en Iran. Et elle a parlé lors de son interview d'une autre Française qui s'appelle Cécile Kohler. Et la journaliste lui a demandé si elle avait des nouvelles, et elle nous en a donné. Depuis près de 3 ans, cette Française est emprisonnée dans des conditions qualifiées de terribles, selon Narghez Mohammadi. Détenue à l'isolement, l'enseignante, accusée d'espionnage par les autorités iraniennes, serait gravement affaiblie. Elle nous a dit qu'elle était très inquiète pour elle, au micro de France Inter le mardi 8 janvier. Profitant d'une permission de sortie temporaire, donc pour soigner la tumeur à la jambe, Narghez a donné des nouvelles des conditions de détention de l'enseignante. D'après elle, la Française est détenue à l'isolement, dans des conditions terribles. La militante iranienne sait bien de quoi elle parle, puisqu'elle était incarcérée derrière les mêmes murs que Cécile Kohler, dans le centre de détention d'Evin à Téhéran. Une prison sur laquelle Amnesty International documente régulièrement des cas de torture. Evin comprend aussi un secteur de haute sécurité qui dépend du ministère du Renseignement, la section 209 où se trouve Cécile Kohler. C'est aussi à Evin que sont enfermées de nombreuses prisonnières politiques et militantes iraniennes pour les droits humains. Cécile Kohler, elle, est accusée d'espionnage par les autorités iraniennes, ce que ses proches nient fermement. Elle a été arrêtée le 7 mai 2022 en Iran, où elle s'était rendue pour un voyage touristique avec son compagnon Jacques Paris, incarcéré lui aussi, séparément dans la section 209 de la prison d'Evin. Un procès avait été annoncé pour le 24 novembre, mais sans suite depuis. La diplomatie française, qui réclame leur libération, estime qu'ils sont des otages d'État. Narghez Mohammadi, en contact avec ses anciennes co-détenues, a indiqué mardi que des prisonnières, passées de la section 209 à la section générale, avait pu voir Cécile Kohler. Elle décrive la Française de 40 ans extrêmement affaiblie sur le plan physique. « Moi aussi, j'étais à l'isolement et ce sont des conditions terribles, une vraie torture. Il n'y a pas de promenade. Quand j'y étais, on n'avait que 3 sorties dans la cour, de seulement 20 minutes par semaine. La porte de sa cellule est fermée 24 heures sur 24, sauf autorisation exceptionnelle pour aller à l'infirmerie », nous a expliqué Narghez Mohammadi. Maintenant, on va écouter une autre Iranienne très courageuse, Parastoh Ahmadi, qui a chanté sans voile, les cheveux dégagés, accompagnée de 2 hommes musiciens. Voilà, et elle a publié cette chanson sur les réseaux sociaux avec un courage extrême. puisque bien sûr elle va être poursuivie et passée en jugement. Donc on écoute cette courageuse, comme sont beaucoup de femmes en Iran, chanter un air de liberté, Air of Freedom.
سیاوش که آسان گذشت از آتش به تلقین ایمان گذشت از این راه رفته نخواهم نشست که آب از سر ظلم انسان گذشت هوا بس هوای هوا خواهی است هوای سپیدار آزادی رها کن غم مانده را در گلو کجا می روی خانه‌ات مال توست سند خورده ی بخت و اقبال توست ببین پایه ی تخت تزویر و ننگ گره خورده ی لفظ ششال توست ترسم از حیله یا خنجرش نه از دار و زنجیر و از آخرش یخ سیلی تو قلب یقین دمی کم نکرد از تب باورش بهای رهایی از این بردگی اگر خون من شد به یغما برش هوا
Alors, en dehors de cette campagne que nous venons de faire, qui s'appelle « Changer leur histoire », les membres d'Amnesty, mais pas que, aussi des gens concernés qui acceptent de participer à ces actions, peuvent envoyer ce qu'on appelle des actions urgentes en faveur de personnes où il est urgent d'intervenir, soit parce qu'elles sont très malades, soit parce qu'elles risquent d'être condamnées et exécutées, voilà, pour demander leur libération. On n'a pas besoin d'être membre d'Amnesty pour participer aux actions urgentes. Il suffit de s'inscrire sur le site amnesty.fr ou de contacter Fréquence Mistral et je vous donnerai les informations. Voilà, par exemple, hier, j'ai envoyé trois actions urgentes, dont une justement en faveur de la libération de Cécile Kohler. Je vais l'envoyer, là je l'ai sous les yeux, je vais l'envoyer à l'ambassade de la République islamique d'Iran pour demander sa libération et en attendant cette libération, pour demander qu'elle soit protégée contre de nouveaux actes de torture, qu'elle soit soignée, qu'elle puisse communiquer avec sa famille et son avocat de son choix et bénéficier d'une assistance consulaire sans entrave. Voilà ce que je demande et ce que nous demandons tous à l'ambassade de la République islamique d'Iran. Voilà, alors ces actions urgentes, nous obtenons bien sûr des victoires, pas toujours hélas, mais je vais vous en citer quelques-unes. En début d'année, ça fait du bien d'avoir un peu des victoires. Alors au Yémen, les quatre hommes Bahaïs qui restaient détenus par les autorités houthis ont été libérés après avoir été enfermés arbitrairement pendant plus d'un an dans un centre de détention des services de sécurité et de renseignement administré par les Houthis à Sanaa, au Yémen. Les forces armées Houthis les avaient arrêtés avec 13 autres personnes, Baha'i, une minorité religieuse, le 25 mai 2023. Tous ont été soumis à une disparition forcée durant environ 4 mois et sont restés détenus sans inculpation et privés de leurs droits à un avocat pendant toute la durée de leur incarcération. Amnesty International informait régulièrement au sujet des visites que leurs proches avaient pu leur rendre en prison et soulignait la nécessité de continuer d'œuvrer pour obtenir leur libération. Ces personnes résidant à l'étranger pensent que la libération des deux hommes n'aurait pas été possible sans notre pression soutenue. En Afghanistan, Ahmad Fahim Azimi et Sekilia Afghan, des militants de l'éducation, qui étaient détenus arbitrairement depuis plusieurs mois, ont été relâchés. Sekilia a été libéré le 9 avril 2024 à la faveur d'une grâce accordée à des prisonniers à l'occasion de l'Aïd. Ahmad a été remis en liberté le 26 septembre à la suite de la décision d'un tribunal taliban ayant invoqué un manque de preuves. En Israël, et territoire palestinien occupé, le chirurgien palestinien Khaled Al-Ser a été libéré. Ce chirurgien a été maintenu en détention par Israël sans inculpation ni procès pendant plus de 6 mois, dont la moitié au secret, en vertu de la loi abusive relative aux combattants irréguliers. Il a été soumis à une arrestation arbitraire par l'armée israélienne le 25 mars 2024, en compagnie d'autres membres du personnel de santé à l'hôpital Nasser Khan Younis, dans la bande de Gaza occupée. Lors d'un appel téléphonique avec les équipes d'Amnesty International après sa libération, Khaled Al-Ser a déclaré « Pendant plus de 6 mois, j'ai été presque totalement coupé du monde, à l'exception d'une visite de l'avocat en juillet. Je m'inquiétais pour ma famille à Gaza, pour mes collègues, mais je savais aussi que je n'étais pas seul. » Alors que j'étais interrogé par Sabak, j'ai appris qu'il existait une campagne réclamant ma libération. Cela m'a réconforté et m'a donné la force au moment où j'en avais le plus besoin. Il a souligné l'importance de continuer à faire campagne pour les détenus, en particulier pour le personnel médical et le professionnel de santé détenus arbitrairement et soumis à la torture dans les prisons israéliennes. Même si je suis soulagé de retrouver ma famille, je me sens coupable pour tous les prisonniers que j'ai laissés derrière moi, y compris les professionnels de la santé, confrontés à la torture, privés d'aide médicale et ignorant leur famille. Voilà, nous allons maintenant écouter Julos Bocarn. J'aimerais tant te parler tendre.
J'aimerais tant te parler tendre un soir d'hiver au coin d'un feu, te dire des mots à pierre fendre, à fondre la banquise des yeux. J'aimerais tant tendre la perche d'un grand sourire radieux, prendre le temps de dire je t'aime, arrêter les courses et les jeux. Dans le silence, silence. J'aimerais te faire douce, douce, à 12h12, et pourquoi pas 13 douze à 13h13, blottis tendrement dans tes bras. Il n'y a jamais d'overdose pour les doudous, enfin, je crois. L'amour est une énergie douce qui réchauffe tant haut que bas. Dans le silence, dans le silence. Il fait froid, ce serait bon se fendre d'un baiser tendre, même de deux. Enfin se fondre et se confondre et n'être qu'un bien qu'étant deux. Se perdre dans l'espace immense, oiseau léger au gré du vent, perdre doucement connaissance, naître à nous-mêmes en même temps, dans le silence, dans le silence. J'aurais tant aimé lire les lignes subtiles de tes blanches mains, pêcheur d'amour, tendre ma ligne pour te faire mordre mes lèvres. Au moins, oui, j'aurais tant aimé descendre au plus secret de tes jardins, écouter le vent dans les branches de tes longs cheveux châtains. Dans le silence, dans le silence. Mais je n'ai pas dû tant t'attendre, tu m'as prise au piège amoureux, et c'est moi qui me suis fait prendre aux appos si beaux de tes yeux. Étaient les prix qu'ils croyaient prendre, j'étais seul et nous voilà deux. Je n'ai rien perdu pour attendre, le temps est venu d'être heureux. Dans le silence, dans le silence.
Voilà, les chansons de Julos Bokarne sont pleines d'humanité, de tendresse et d'amour. Et c'est bien de le passer un peu sur les ondes parce qu'on l'entend plus beaucoup. Alors on continue dans les bonnes nouvelles. Nous nous réjouissons de la libération le 22 octobre 2024 de la militante et blogueuse libyenne Mariam Mansour Al-Warfali, après 9 mois de détention arbitraire. L'agence de sécurité intérieure, alliée aux forces armées arabes libyennes, un puissant groupe armé qui contrôle de facto l'est et le sud de la Libye, a arrêté Mariam Mansour Al-Warfali après l'avoir convoquée pour un interrogatoire. Elle avait été arrêtée sans mandat après avoir critiqué la gestion par les forces armées arabes de la distribution de gaz de cuisine dans le sud de la Libye. Elle avait été détenue arbitrairement, sans inculpation, à Benghazi. Un grand merci aux membres et sympathisants d'Amnesty International et à toutes les personnes qui ont soutenu l'action urgente et envoyé des lettres aux forces armées arabes libyennes et ont obtenu la libération de Mariam. En Argentine, Pierina Nochetti, une militante lesbienne, a obtenu un accord le 31 octobre 2024 auprès de la municipalité qui l'accusait d'avoir peint un graffiti dans un amphithéâtre. Les charges retenues contre elle ont été abandonnées et l'affaire a été classée sans suite. Cette mère de 3 enfants et le principal soutien de sa famille, elle se définit comme une lesbienne visible et une militante LGBTI et fait partie du comité d'organisation de la Marche des Fiertés à Necochea, une ville côtière de la province de Buenos Aires. Depuis 2022, elle faisait l'objet de poursuites parce qu'elle était soupçonnée d'avoir peint un graffiti demandant où était UL dans un amphithéâtre local. Cette question concerne la disparition survenue en 2021 de TUL de la Torre, un jeune homme transgenre. La famille de TUL, des mouvements transféministes et LGBTI et des organisations de défense des droits humains se mobilisent depuis sa disparition survenue le 11 mars 2021 alors qu'il se rendait à un entretien d'embauche. La militante a également dénoncé publiquement la discrimination exercée contre elle sur son lieu de travail en raison de son orientation sexuelle et de son expression de genre. À la suite de cette action urgente, des milliers de lettres et de courriers ont été adressés au procureur chargé de cette affaire. Pierina est profondément reconnaissante pour tout le soutien international qu'elle a reçu. Et elle nous a écrit « Je suis super reconnaissante pour le soutien que m'ont apporté beaucoup de personnes qui pensent que c'est absurde. Je suis une travailleuse et ils ont violé mes droits, allant jusqu'à me soumettre à un procès en audience publique. Nous continuerons de poser des questions au sujet de TUL et nous continuerons d'accompagner Norma, sa maman. Nos combats sont liés et je veux que ce qui m'est arrivé n'arrive à personne d'autre. » Voilà ce qu'elle nous a déclaré à la sortie de l'audience. Et puis au Sud-Soudan, nous sommes très heureux d'annoncer que les 7 et 9 novembre, Michael Wentialik et Maurice Mabior ont été libérés de leur détention illégale dans le célèbre centre de détention de Juba, connu sous le nom de Maison Bleue. Michael, militant et critique du gouvernement, a été arrêté en mars 2024 et a passé 7 mois en détention illégale. C'était la 5e fois qu'il était arrêté, soupçonné d'avoir utilisé Facebook pour critiquer le NSS et ses hauts responsables. Amnesty International, par le biais d'une action urgente publiée en juillet 2019, a fait campagne pour sa libération. Voici le message qu'il nous a envoyé. Je suis également profondément reconnaissant pour le soutien que j'ai reçu de la part de nombreuses personnes et de diverses organisations où qu'elles se trouvent. Si je devais détailler chaque exemple de votre gentillesse, cela remplirait sans aucun doute plus de 100 pages. C'est pourquoi j'exprimerai ma profonde gratitude pour votre engagement inébranlable dans chaque action entreprise en ma faveur et au nom d'autres personnes dans le besoin. Cet esprit de solidarité est quelque chose dont nous avons désespérément besoin dans nos cœurs. Votre soutien restera à jamais inoubliable pour moi. Sachez que je vous suis redevable et que les mots me manquent pour exprimer le bonheur que votre soutien indéfectible m'a apporté. Vous êtes tous dans mes prières quotidiennes. Maurice est un autre détracteur du gouvernement. Il avait été arrêté le 4 février 2023 à Nairobi, où il réside, par les membres armés des forces de sécurité kenyanes et par un Sud-Soudanais en civil. Il a été ramené de force au centre de détention de Juba et détenu au secret à la Maison Bleue. En février 2023, peu après son arrestation, nous avons publié une action urgente demandant sa libération immédiate. Voici un message d'un de ses proches. Transmettez ma sincère gratitude à l'équipe d'Amnesty International. Je ne saurais exprimer à quel point je suis reconnaissant du soutien inconditionnel que vous et l'équipe nous avez apporté dans ces moments difficiles. Voilà, donc si vous aussi vous voulez soutenir ces personnes injustement torturées, emprisonnées, rejoignez le réseau d'action urgente d'Amnesty International. On va écouter à nouveau Julos Bocarn. La nuit n'est jamais complète.
La nuit n'est jamais complète, il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie. La vie à se partager. La nuit n'est jamais complète, il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager.
Voilà, nous allons donc maintenant parler de la Syrie et de la chute de Bachar al-Assad entre espoir et défi pour la population syrienne. une nouvelle ère commence pour la population. La prise de contrôle de Damas par les groupes armés d'opposition a mis un terme à 25 ans de règne de Bachar al-Assad, successeur de son père Hafez al-Assad. Le pays sort profondément marqué par des décennies d'atrocités et de graves violations des droits humains qui ont causé des souffrances indescriptibles. Après la chute de Bachar, des enquêtes sur les crimes du régime peuvent enfin avoir lieu sur le terrain. Il y a un besoin impérieux de sécuriser, protéger et préserver les preuves des atrocités commises pour déterminer ce qu'il est advenu des dizaines de milliers de Syriens et Syriennes soumis à une disparition forcée par les tristement célèbres services de sécurité et de renseignement de l'ancien gouvernement. Ces preuves sont aussi indispensables pour enquêter sur les auteurs de crimes de droit international, notamment de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, et pour engager des poursuites à leur encontre. Entre le 10 et le 20 décembre, nos chercheurs et enquêteurs, ainsi que ceux du Human Rights Watch et de l'Association des détenus et des disparus de la prison de Saïdnaya, se sont rendus à Damas, où ils ont visité 10 centres de détention, 7 sites de fosses communes et le tribunal militaire. Nos enquêteurs ont constaté que des documents officiels étaient souvent laissés sans protection, avec de nombreuses pièces pillées ou détruites. Ces documents peuvent contenir des informations primordiales sur la structure de l'appareil de sécurité et de renseignement de l'État syrien sous le régime Assad, sur l'identité des responsables des crimes et sur les noms des détenus. Il s'agit d'un moment crucial pour les autorités de transition syrienne qui doivent agir de manière décisive et garantir la préservation des preuves, pierre angulaire de la responsabilisation et de la réconciliation. Notre chercheuse Aya Majzoub est en Syrie où elle récolte des preuves sur des lieux longtemps inaccessibles, des crimes commis par le régime Assad. Les premières images du centre de détention qu'elle publie révèlent l'enfer que subissaient les prisonniers syriens. Les groupes armés d'opposition doivent s'affranchir de la violence du passé. La priorité est désormais à la justice et non à la vengeance. Cela nécessite l'ouverture d'enquêtes sur les crimes graves et les violations des droits humains afin que leur auteur soit traduit en justice dans le cadre de procès équitables sans recours à la peine de mort. Pour soutenir le peuple syrien dans cet effort, la communauté internationale a un rôle à jouer, notamment lançant des poursuites devant les juridictions internationales. En soutenant le mécanisme international impartial et indépendant pour la Syrie, l'institution internationale indépendante des Nations Unies créée en 2023 pour retrouver les personnes disparues, il est impératif que les justices nationales, au moyen de la compétence universelle, poursuivent les auteurs de crimes commis, comme en Allemagne. Dès 2011, nous avons documenté les attaques répétées du gouvernement syrien, perpétrées avec le soutien de la Russie, contre les zones contrôlées par les groupes armés d'opposition. Ces offensives incluaient des frappes aveugles et ciblées sur des habitations, des hôpitaux et des centres médicaux. Parmi ces crimes figurent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Recours à des armes chimiques contre des civils, utilisation de bombes barils, meurtres, tortures, disparitions forcées et détentions arbitraires généralisées et systématiques. Ces actes ont laissé des populations entières assiégées et soumises à des bombardements incessants. Dans ce contexte de terreur, la prison militaire de Saïdnaya s'est imposée comme un symbole des horreurs du régime. Lieu de milliers d'exécutions et d'exterminations, elle reste une cicatrice profonde dans la mémoire nationale. Alors que les portes de nombreuses prisons s'ouvrent à travers le pays, les proches des dizaines de milliers de disparus reprennent espoir. À Saïdnaya, tristement célèbre pour ses pendaisons de masse, détenus ont déjà été libérés, ravivant l'espoir pour les familles de découvrir enfin le sort de leurs proches. Dans notre rapport en 2017 intitulé « L'abattoir humain », nous révélions que les autorités syriennes, sous la présidence de Bachar al-Assad, s'étaient livrées à des homicides, des actes de torture, des disparitions forcées, des pendaisons de masse et l'extermination de prisonniers dans la prison militaire. Ces crimes, organisés dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique contre la population civile, constituaient des crimes contre l'humanité. Depuis le début du conflit en 2011, le gouvernement syrien a délibérément restreint l'accès à l'aide humanitaire dans les zones contrôlées par l'opposition, utilisant la faim comme arme de guerre. Privant la population civile de nourriture, de médicaments et d'autres produits essentiels, Ce blocus a exacerbé la crise humanitaire. Après le tremblement de terre de 2023, des millions de personnes dépendaient entièrement de l'aide transfrontalière de l'ONU pour survivre, soulignant l'urgence d'un soutien international renforcé. L'ONU doit continuer d'acheminer l'aide humanitaire vers le nord-ouest du pays. Depuis 2011, la solidarité internationale envers les réfugiés syriens a été largement insuffisante. Alors que des centaines de milliers de Syriens ont fui la violence et la répression, de nombreux pays, notamment en Europe, ont mis en place des politiques restrictives, refusant d'accueillir ceux qui fuyaient les atrocités. En 2021, le Danemark révoquait déjà les permis de séjour des réfugiés syriens, les exhortant à retourner vers un pays toujours en guerre, malgré les risques de torture et les persécutions. En 2022, des préfectures françaises ont tenté d'expulser deux personnes vers la Syrie, violant le principe de non-refoulement, pilier du droit d'asile. Ce manque de solidarité a exacerbé la souffrance des personnes réfugiées, les forçant à vivre dans l'incertitude, dans des centres de retour, sans droit ni protection. Au lendemain de la chute de Bachar al-Assad, il est essentiel d'écouter les voix syriennes et de soutenir une population qui a souffert des décennies de répression et de violence. La quête de justice et de réconciliation doit être accompagnée d'un soutien actif de la communauté internationale, indispensable pour éviter que cette période de transition ne plonge le pays dans une instabilité encore plus grande. Malgré ce contexte fragile, plusieurs gouvernements européens, dont l'Autriche, la Belgique, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont annoncé leur intention de réexaminer leur politique d'asile. Certains envisagent même de suspendre les demandes d'asile proposées par les Syriens et les Syriennes. Ces décisions risquent d'aggraver la précarité des personnes réfugiées et des demandeurs d'asile, alors même que la situation en Syrie reste chaotique. À ce jour, il manque des informations fiables sur les conditions de sécurité dans le pays, notamment sur les groupes armés qui contrôlent les différentes régions. Dans un tel contexte, il est impératif de privilégier la sécurité et la dignité des personnes réfugiées, tout en évitant des mesures hâtives qui pourraient les exposer. Voilà. On va maintenant écouter une Syrienne qui chante un hymne de résistance. Ça s'appelle Un sourire au cœur. Elle est accompagnée par l'Orchestre national de Bretagne. Elle s'appelle Naïssam Jalal.
We are
Voilà, belle chanson. Nous allons maintenant parler des attaques répétées du Hezbollah qui ont tué et blessé des civils israéliens. Voilà, quand on a sorti le rapport sur Gaza en disant que c'était effectivement un génocide, nous avons été très critiqués et traités de partial, alors que nous venons là de sortir un rapport sur les attaques du Hezbollah. En effet, au lendemain des crimes atroces commis par le Hamas le 7 octobre 2023, le Hezbollah a lancé à son tour une attaque contre Israël. Des salves de roquettes ont été tirées sur des zones civiles densément peuplées pendant des mois, provoquant une riposte de l'armée israélienne dans le sud du Liban. Notre nouvelle enquête analyse les attaques répétées menées par le Hezbollah. Certaines bafouent le droit international humanitaire et pourraient constituer des crimes de guerre. Nous avons examiné 3 attaques de roquettes sur des zones civiles israéliennes fin octobre 2024. Le constat est clair. Le Hezbollah a utilisé à plusieurs reprises des armes imprécises qui tuent et blessent des civils en Israël. Des frappes aveugles que nous avons étudiées ont fait 8 morts et 16 blessés. Les attaques menées directement contre des civils et des biens de caractère civil et menées sans discrimination doivent faire l'objet d'enquêtes en tant que crimes de guerre. Au Liban, les frappes israéliennes ont fait 4047 morts, dont des familles entières, et 16 000 blessés, tandis que 1,2 million de personnes ont été contraintes de fuir. Ces déplacements ont été compliqués par des ordres d'évacuation jugés inadaptés, voire trompeurs. En Israël, les attaques du Hezbollah ont tué plus de 100 personnes et forcé environ 63 000 résidents du nord à se réfugier ailleurs. Le groupe a tiré des milliers de roquettes par nature imprécise sur Israël et le plateau du Golan occupé. Bien que le système antimissile israélien, le Dôme de fer, intercepte de nombreuses roquettes, certaines ont échappé à la défense. Notre laboratoire de preuves a vérifié 13 vidéos et 6 photos liées aux attaques documentées. Nos experts en armement ont par ailleurs contribué à analyser que les armes utilisées étaient par nature imprécises, car il est impossible de les diriger avec précision ou de prévoir leur impact exact. Il s'agit des systèmes de lance-roquettes multiples, non guidés et différentes tailles de roquettes. L'utilisation de telles armes dans des zones densément peuplées a mis en danger les civils. Plus de 95% des quelques 100 à 200 000 armes à longue portée dont dispose le Hezbollah ne sont pas guidées selon les instituts de recherche militaire. L'attaque du 29 octobre 2024 à Tarshiha, dans le nord d'Israël. Vers 10h40, le Hezbollah a tiré une salve de roquettes. L'une des roquettes a touché la maison de Mohamed Naïm, un citoyen palestinien d'Israël, âgé de 23 ans. Il est mort sur le coup. Selon le ministère israélien des Affaires étrangères, 13 autres personnes ont été blessées lors de cette attaque. Yasser Naïm, le père de Mohamed, nous a expliqué que son fils emmenait ses 2 jeunes frères et sœurs dans un abri à l'intérieur de leur maison lorsque la roquette a frappé. À quelques secondes près, Mohamed Naïm aurait atteint l'abri pour se mettre en sécurité. Yasser Naïm a indiqué que des dizaines de roquettes étaient dirigées vers la ville et que le Dôme de fer, le système israélien de défense, n'avait pas réussi à intercepter certains projectiles. Au départ, le Hezbollah a annoncé sur sa chaîne Telegram que la cible était le village de Kfar Vradim. Cependant, lorsqu'il a appris la mort d'un citoyen palestinien d'Israël, le Hezbollah a modifié son annonce et diffusé une vidéo affirmant qu'il avait pris pour cible des soldats israéliens à Mahalo Tarshila. L'attaque du 31 octobre 2024 sur Metula et Kreyot. Le 31 octobre, le Hezbollah a lancé 18 salves de roquettes imprécises sur des villes des deux côtés de la frontière. Parmi les villes israéliennes touchées figuraient celles de Carmiel d'Acre et les banlieues de Haïfa dans les Kreyot. L'armée israélienne a indiqué que 90 roquettes avaient atteint le territoire israélien. Au total, 7 civils ont perdu la vie dans 2 de ces attaques. Le Hezbollah a affirmé qu'il ciblait des soldats israéliens situés au sud de Qiam, au Liban, et dans la région de Krayot, en Israël. Pourtant, aucun militaire israélien n'a été touché. La première frappe a touché un verger à Metula, une ville israélienne. 5 civils présents dans une ferme ont été tués. Omer Weinstein, un Israélien, et 4 travailleurs migrants thaïlandais une sixième personne a été blessée. Lors de la deuxième attaque, deux citoyens palestiniens d'Israël ont été tués alors qu'ils cueillaient des olives dans un verger situé entre Shefaham et Kiryat Atta. Deux autres personnes ont été blessées. Le Hezbollah a publié une vidéo censée montrer le lancement des tirs et indiquant que la cible était la banlieue de Krayot, une zone civile le long de la côte israélienne. L'attaque a été menée à l'aide de roquettes Fadi 1. L'endroit effectivement frappé se trouvait à environ 7 km de la cible annoncée, ce qui illustre bien l'imprécision inhérente à ces roquettes et le caractère illégal de leur utilisation, même contre des cibles militaires dans les zones civiles. Voilà, nous allons maintenant écouter Souad Massi dans sa chanson « Ouria ».
J'aurais aimé te chanter d'éternelles histoires, des soleils tombés, des lunes pleines, des nuits noires. Sur le bord des lacs où dorment des songes brûlés, j'aurais posé sur ton front des brasiers. J'aurais aimé sculpter d'incroyables poèmes, des oiseaux enflammés déchirant les nuits blêmes. Et sur le toit des montagnes, quelques anges de passage auraient taillé dans la pierre des mirages. Oh, Houria, il se pourrait qu'on ne croise plus jamais l'amour. Oh, Houria, il se peut qu'il soit mort avant mon retour. J'aurais aimé te donner des rêves fins et bleus, des étoiles éclairées perdues dans tes cheveux, à l'ombre de ton nom, de ses lèvres mouillées. Écoutez la vie murmurer. Oh, Houria, il se pourrait qu'on ne croise plus jamais l'amour. Oh, Houria, il se peut qu'il soit mort avant. Chaque nuit t'offrir un bout de ciel, caresser la lumière, lisser un peu tes ailes, des parfums déchirant les lueurs du matin. J'aurais bâti pour toi chaque lendemain. Oh, Houria, il se pourrait qu'on ne croise plus jamais l'amour. Il se peut qu'il soit mort avant mon retour. Oh, Houria, j'aurais aimé que le brouillard ne touche rien. Oh, Houria, que les vents cruels ne coupent pas mes mains. Oh, Houria, il se pourrait qu'on ne croise.
Voilà. Alors, vous savez que Amnesty International France publie un journal mensuel qui s'appelle La Chronique, que vous pouvez trouver à la médiathèque de Digne-les-Bains. Et vous pouvez aussi vous abonner, si vous le voulez, sans être membre d'Amnesty ou en adhérant également à Amnesty. Voilà. Alors, le dernier numéro donne la parole à Nancy Hudson, qui est une romancière, qui raconte son engagement auprès des détenus. Je vais vous en lire quelques extraits. L'article complet, vous le retrouvez donc sur la dernière chronique de décembre-janvier. Un jour, Nelly Thieb, la bibliothécaire, m'a contacté pour participer à son club de lecture. Nelly est une fondatrice de Lire, c'est vivre, une association qui promeut la lecture en milieu carcéral. J'ai accepté sans hésiter pour me lancer dans un engagement qui dure toujours. L'univers carcéral m'a toujours intéressé, je l'ai découvert à l'âge de 16 ans. Un professeur de mon lycée du New Hampshire aux États-Unis nous avait demandé de nous immerger dans des lieux publics pour réfléchir à l'impact de l'architecture sur la psychologie humaine. Mes camarades ont visité la mairie, l'église ou encore la bibliothèque. J'ai préféré m'enfermer une journée en prison. Un tel accès serait impossible aujourd'hui. Je me souviens du bruit métallique des portes claquant derrière moi et des murs de ma cellule sur lesquels les hommes avaient gravé avec leurs ongles des noms de femmes. J'ai retrouvé la même sensation de vertige en pénétrant pour la première fois à Fleury-Mérogis dans l'Essonne. On laisse sa carte d'identité et son téléphone portable à l'entrée. Il faut ensuite franchir toute une série de portes et de sas jusqu'à l'arrivée de la médiathèque, un îlot de chaleur, peut-être le seul. Il y a un tel ennui en prison que tout échange devient vital. Ce jour-là, en me retrouvant à discuter avec un groupe de détenus, j'ai senti l'importance pour eux de la littérature. J'ai le souvenir fort de ce prisonnier qui avait lu à voix haute un passage de mon roman « Prodige » paru chez Actes Sud. Ce roman raconte l'histoire d'une grande prématurée qui devient un prodige du piano. Le détenu avait choisi une scène où la petite interprète un morceau de Bach pour accompagner sa grand-mère qui se meurt. Furieuse d'entendre de la musique, la mère s'indigne, l'interprétant comme un manque de respect. L'enfant proteste. Pour moi, c'était ça le respect, car sa grand-mère l'avait beaucoup soutenue dans son désir de jouer. Le détenu pleurait en lisant ce passage. J'étais très frappé par la qualité de l'écoute dans le groupe, et c'est ce qui me pousse à y retourner très souvent à l'invitation de Nelly Thieb. Voilà, donc si vous voulez lire l'article complet, vous pouvez le trouver à la médiathèque de Digne-les-Bains. On va maintenant écouter une chanson d'Antoine Ciosi, un Corse, qui s'appelle « Le prisonnier, je t'envie, petit moineau ».
Petit moineau, toi qui viens quelquefois pour me rendre visite, perché sur l'un des barreaux de cette minuscule lucarne à l'air si triste. Lorsque toi tu ne viens pas, j'y vois un coin de ciel qu'on m'accorde en faveur. Mais je t'attends chaque fois, à croire que maintenant tu sais lorsque c'est l'heure. So impregionato e mamma's in amore, perdona mio mamma. Ti fatti tanto male, je ne peux pas faire un geste pour aller l'embrasser une dernière fois. Que m'importe à moi le reste, car si elle se meurt, c'est à cause de moi. Elle qui ne s'endormait jamais sans avoir imploré la Madone et les saints, elle qui avait tant donné, pourquoi qu'on dise plus tard, c'est un monsieur très bien. So impressionato e mamma in amore, perdonami oh mamma, ti fatti tanto male. So impressionato e mamma in amore, perdonami oh mamma, perdonami.
Voilà, bon, maintenant je vais vous parler de l'action du groupe Dinois. Alors, notre réunion de groupe aura lieu mercredi 29 janvier à partir de 17h dans la Villa Blanche qui est derrière le grillage de l'étal des Trois-Vallées. Donc, si vous voulez nous rejoindre, c'est la bonne occasion parce que nous allons faire, bien sûr, partager ce qu'on appelle, nous, la galette des droits. Voilà, entre nous. Et puis, bien sûr, on va travailler à la préparation du festival de films qui aura lieu au mois de mars. Donc, nous allons décider des films que nous allons choisir. Nous ferons 3 séances au Ciné-Étoile. Un film de fiction. Une autre séance avec un documentaire. Et puis, une séance gratuite de court-métrage. Voilà, donc on va choisir ces films à notre réunion du 29 janvier. Et puis on va réfléchir à éventuellement une action pour les droits des femmes autour du 8 mars. Voilà, donc si vous voulez voir comment se passe une réunion d'Amnesty sur Digne, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, on terminera donc cette émission par une chanteuse qu'on n'entend plus beaucoup non plus, Colette Mani, dans sa chanson « Mélocoton ».
Et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocotonou, elle est maman. J'en sais rien, viens de moi la main. Pour aller où, j'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix, tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Mélocotonne, mémé, elle rit souvent. Tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Périnée, elle est grande, presque comme maman. Pourquoi elle joue pas avec moi? J'en sais rien. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Dis, Mélocotonne, tu crois qu'il nous aime? Ma petite boule.